dans Matin en Première, vous êtes docteur en géographie et spécialiste de la Chine contemporaine et des relations internationales. Alors, je le disais tout à l'heure, cela fait tout juste 3 ans que la Chine annonçait son premier mort du Covid. C'était le 11 janvier 2020. La ville de Wuhan, berceau de la pandémie, connaissait pourtant ses premiers contaminés et ses premières victimes du Covid depuis plusieurs semaines. Depuis lors, le pays vivait quasiment sous cloche. Les visiteurs étaient jusqu'à tout récemment soumis à un régime de tests et de confinement ultra strict. Après 3 ans de sévérité absolue, les manifestations de contestation ont entraîné la levée des mesures voici quelques jours.
Après plus de 1000 jours où la Chine était coupée du reste du monde, ce dimanche, plus de quarantaine à l'arrivée sur le territoire chinois. Il y a encore un an, il fallait passer 21 jours à l'isolement et pour l'avoir vécu, je peux vous dire que c'était très strict. J'ai été enfermée dans une chambre d'hôtel, sauf pour recevoir des plateaux repas et pour faire un test PCR un jour sur deux sur le pas de la porte. Maintenant, c'est terminé. Les centres de quarantaine sont démantelés dans tout le pays et il suffit d'un test PCR de moins de 48 heures pour entrer en Chine.
C'est un extrait du témoignage de notre correspondante en Chine, Lou, qui s'y est là, reçu justement au moment de la levée des mesures. Alors depuis, la Chine fait face à une explosion des cas de Covid, impossible à mesurer, puisque les autorités ne comptent plus quotidiennement ni les contaminations, ni les décès d'ailleurs. Après avoir réussi à faire plier la politique zéro Covid du pouvoir en place, quelles sont au juste les perspectives de la société chinoise? C'est la question qui va nous occuper ce matin, Emmanuel Véron. Aujourd'hui, diriez-vous que c'est une Chine fragilisé qui s'ouvre à nouveau au monde?
Oui, incontestablement, je partage votre adjectif qualificatif qui est une Chine fragilisée. Fragilisée pourquoi? Parce que les 3 ans de pandémie ont vu une cristallisation et une accélération de la dégradation des conditions économiques en Chine, avec des résultats en fin d'année 2022 qui ne sont vraiment pas bons. Une explosion du chômage, notamment dans les tranches jeunes de la population chinoise, qui a vraiment du mal, si vous voulez, à s'arrimer dans le corps social et, si vous voulez, dans l'emploi en Chine populaire. Deuxième sujet, et on le voit depuis plusieurs semaines avec la levée de ces restrictions, c'est une explosion des cas, des milliers de morts, peut-être des millions de morts. Et donc on a, en plus de cela, une grogne, un ressentiment de la population chinoise qui ne comprend pas, qui est dans un état psycho-affectif compliqué, difficile, qui ne s'y retrouve pas, et une grogne qui est toujours là. Donc oui, c'est une Chine qui est, dans quelque somme, fragilisée. Xi Jinping garde le pouvoir, on en reparlera probablement dans la conversation, mais on est face à une Chine qui est fragilisée.
2022 a-t-elle été, selon vous, l'année du basculement, justement, pour le pouvoir chinois? Cette nouvelle politique Covid, le relâchement des mesures, ça veut dire quoi, au juste, pour le parti communiste? Qu'il a pour une fois entendu l'appel de la population, est-ce que c'est positif ou qu'il n'a justement pas eu d'autre choix que de plier et qu'il est complètement peut-être fragilisé finalement lui aussi?
Alors effectivement, il est toujours compliqué de savoir ce qui se passe au cœur du pouvoir à Pékin. Néanmoins, comme on a une capacité d'analyse qui est renforcée aujourd'hui par différents canaux, on a probablement la sédimentation de plusieurs facteurs qui expliquent cette décision très soudaine. Premièrement, effectivement, c'est la dégradation des conditions économiques. La Chine a besoin de se réouvrir et besoin de se réarrimer à l'économie internationale, ce qui est difficile, mais en tout cas c'est le choix politique. Deuxièmement, c'est supposer entendre la grogne des Chinois, la contestation, ce qui est peut-être une des situations, mais en tout cas, c'est aussi pour Xi Jinping de recréer les conditions d'exactement il y a 3 ans, de relaisser circuler le virus partout sur la planète pour participer à un certain désordre international qui est peu prou corrélé à la guerre en Ukraine dans une logique de connivence stratégique avec la Russie de Poutine.
Ah oui, vous allez loin dans cette analyse. Et ça veut dire quoi alors pour la population? Cette population qui se rend compte aujourd'hui, peut-être qu'elle peut contester et aussi influencer sur les décisions du pouvoir. Est-ce que 2023, du coup, risque d'être l'année de nouvelles contestations?
Sans aucun doute, puisqu'on l'a depuis quelques semaines encore, un certain nombre d'images qui montrent des contestations qui ne sont pas tout à fait celles que l'on a vues à la fin du mois de novembre, début du mois de décembre, un petit peu partout en Chine, mais qui sont plus liées à des questions d'emploi, qui sont plus liées à des questions de mort, qu'on voit dans les hôpitaux qui sont sursaturés, qui sont complètement débordés, on le voit dans les crématoriums, les funérariums, etc. Donc on aura probablement dans les semaines et les mois qui viennent des logiques qui sont toujours liées à l'économie, toujours liées à la gestion sanitaire, sanitaire de la pandémie, mais en rien une possibilité à ce stade d'une coagulation des mouvements et d'un renversement de régime. On n'en est pas là. En revanche, une grogne, une contestation, des formes de rébellion ponctuelle, ça, oui, partout, tout le temps, si je puis dire.
Ce mouvement de contestation auquel on a assisté, donc là j'en reviens sans doute à celui de novembre, plusieurs observateurs estiment qu'il s'agit là de quelque chose de jamais vu depuis Tiananmen. Est-ce que c'est aussi votre analyse, Emmanuel Véron ?
C'est absolument cette séquence que l'on a connue il y a maintenant un ou deux mois. Mm-hmm. C'est inédit depuis Tiananmen 1989. Très concrètement, ça correspond à une nouvelle génération, puisque la génération qui est née après 89 n'avait pas la mémoire, si je puis dire, des événements et des incidents du massacre de Tiananmen. Et plus de 30 ans après, on a de nouveau cette contestation qui n'est pas complètement comparable, puisqu'on n'a pas la même ampleur dans l'espace public, on n'a pas la répression avec les forces coercitives de l'armée, de la police, du parti. Mais là où c'est comparable, c'est dans la revendication de la population. C'est de la transparence, moins de corruption, c'est de demande de plus d'assouplissement, voire de remise en question de l'autorité politique, notamment du régime.
J'en reviens au dérèglement économique dont Pékin a particulièrement souffert cette année. Peuvent-ils fragiliser la Chine, cette fois sur la scène internationale ? Je lisais aussi d'autres observateurs qui estiment que tout cela pourrait aussi être très important pour l'avenir de la croissance mondiale. Donc ce qui se passe au niveau économique en Chine, comment ça fragilise ce pays sur la scène internationale et comment ça a de l'importance sur la scène mondiale au niveau de la croissance économique à nouveau, Emmanuel Véron ?
Absolument. On le voit d'ailleurs depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, avec les effets directs et indirects de la pandémie et des politiques zéro Covid qui maintenant donc sont abolies, si je puis dire, par le régime. Mais la géoéconomie chinoise est complètement articulée à l'économie mondiale, notamment la productivité industrielle, la production industrielle. Donc oui, la baisse, voire la chute de productivité en Chine affecte en partie ou en très large partie l'économie mondiale. Donc ce que cherche Xi Jinping, c'est faire relancer la machine industrielle chinoise, qui est aujourd'hui une situation extrêmement compliquée pour un tas de raisons, et donc on le verra au fur et à mesure de cette année 2023, mais il est évident que les difficultés économiques que vont connaître le monde dans les prochaines semaines, notamment en Europe, en Amérique du Nord, seront très liés à la machine industrielle et à la production économique en Chine.
On entend bien que tout ce qui se passe en Chine en ce moment n'annonce pas encore un renversement potentiel du régime chinois tel qu'on le connaît aujourd'hui. Mais diriez-vous, et ce sera ma dernière question, que toute cette gestion de la crise sanitaire, finalement, est-ce que c'est une sorte d'illustration des limites du nationalisme à la chinoise ?
Oui, plus nationalisme, oui, à la chinoise, si je puis dire, avec beaucoup de guillemets. Ce qui est intéressant de voir, c'est la singularité de ce régime politique chinois qui est aujourd'hui, plus que jamais, incarné par la figure de Xi Jinping, qui ne fait pas l'unanimité, qui est au plus haut niveau de l'État et du parti, remis en question, discuté. Donc ce sera aussi intéressant à suivre dans les prochaines semaines et les prochains mois, d'éventuels mouvements politiques qui pourraient venir de l'intérieur de la République populaire de Chine.
Un grand merci, Emmanuel.